Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage de France Inter, de nouveau à l'antenne.
Avec le grand retour de Charlotte Perry après son congé maternité et 28 jours de grève qui nous emmène aujourd'hui pour un voyage dans la nostalgérie française.
Nous sommes au studio 611 pour l'Assemblée Générale de Comme un bruit qui court, réalisé en direct par Fabrice Lègue et Jérôme Chélius, assisté de Karen Day avec à la technique Antoine Fortin et Julien Dumont.
Vive la radio!
Vive la radio!
Nous, on veut faire de la radio, on veut faire de la musique, on veut faire des belles émissions.
Monsieur Gallet! Monsieur Gallet! Oh!
Cette maison, c'est de la production. C'est une grande antenne, une grande maison.
Concernant la caisse de grève, justement, on a franchi samedi un seuil psychologique. Il y a plus de 105 000 euros dans la caisse de grève.
Monsieur, c'est sérieux, les bruits qui courent.
Nous sommes ravis de vous retrouver, chers auditeurs. Mais avant de se remettre en selle, micro en bandoulière, quelques mots sur ce qui nous a éloignés de vous pendant ces 28 jours, 4 émissions, un long mois de grève. On va pas refaire le match, mais juste deux ou trois choses à vous dire. Car le grand paquebot qu'est la maison de la radio a pas mal tangué, mes soutiers et passagers n'ont pas cédé à la panique dans une belle foire à la parole ponctuée de concerts inopinés où les mots fusaient et aussi les chiffres, des tonnes de chiffres. Une enveloppe publique qui a diminué de 87,5 millions d'euros depuis 4 ans et un chantier qui a plus que doublé avec au final une facture qui s'élèvera à 575 millions d'euros. Résultat, pour la première fois de son histoire, Radio France affiche un modeste déficit de 2 millions d'euros. Mais à ce rythme-là, moins 20 millions estimés pour 2015. Et voilà comment on glisse d'un problème purement budgétaire qui incombe aux errances de l'État et aux erreurs des directions successives à une redéfinition des missions et des moyens d'une radio de service public. Car brandir l'austérité comme seul compas ne constitue pas une politique, pas plus en France qu'à Radio France. La logique comptable n'a qu'un cap, la réduction des coûts. Et à ce compte-là, nous sommes dans la mauvaise colonne du cahier des charges puisque nous n'avons rien à vous vendre, mais à vous offrir, ça oui. Avec 14 millions d'auditeurs quotidiens, 7 chaînes de radio et 4 formations musicales, n'en déplaise aux contenteurs de la gabegie des services publics pour qui cette grève fut du pain béni, comme un bruit qui court que vous écoutez bien la radio la plus riche et la moins chère du monde.
Antoine Chao,
Charlotte Perry,
Guy Montil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Le service public, c'est une présence humaine. À la radio, c'est une impertinence joyeuse et un aiguillon de savoir. À la poste, c'est une écoute discrète et patiente, etc. Denis.
Moi, je trouve que c'est vachement bien d'avoir accès à des informations qui ne sont pas formatées ni soumises à aucun diktat commercial ni économique. Voilà, donc, libéré Radio France. C'était Laurent. Bye.
Pour moi, la radio publique, c'est une radio qui est le fruit d'un travail collectif et partagé entre des artisans de la radio, aller sur le terrain, glaner des sons, ceux qui savent les mettre en ondes, ceux qui savent écrire, ceux qui savent questionner le monde dans lequel on vit et nous offrir un regard différent. Vive la radio et vive Radio France.
Pour que vive le service public, vive Radio France, pour vous que ça dure.
Service public, ce sont d'abord deux beaux mots. La qualité du service public, c'est le meilleur baromètre du climat d'une société.
Écoutez, si il n'y a plus calme, et si honnêtement,
ça s'appelle une monsieur le président.
Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels.
Comment ça va, toi? Pareil, ça cartonne en bas.
Qui veut jouer? Pardon, merci.
En attendant, le mouvement a tenté de s'organiser hier. De son côté, la direction a décidé d'annuler les deux concerts prévus hier et ce soir dans le Grand Auditorium. Pour protester, l'Orchestre National de France a tout de même joué dans le hall de la Maison de la Radio pour le plus grand bonheur des salariés, mais pas vraiment du public, coincé lui à l'extérieur, de l'autre côté des vitres.
La grève a commencé aujourd'hui à Radio France, une grève générale. Malgré tout, nous musiciens, on tenait à vouloir jouer pour le public. Vous voyez comme moi que le public ne peut pas entrer dans la maison de la radio, qui est censée être maintenant une maison ouverte à tous. Et donc on est en train de jouer pour transmettre un petit peu nos idées aussi, notre soutien, et puis surtout le fait que nous, on est les premiers concernés aussi. Donc tous les salariés de cette maison fonctionnent entre eux, et voilà, et sans les nettoyages, sans les musiciens, sans les gens de la sécurité, sans les techniciens, sans les chargés de réalisation, cette maison ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Il fallait les voir, ces musiciens en queue de pie, jouer dans le hall de Radio France, comme un pied de nez à la pensée managériale et ses oracles consultants. Mais pour y voir plus clair, il ne faut pas garder les yeux sur le guidon. Les services publics sont la cible de politiques de crise dictées par l'austérité et les radios publiques sont dans les charrettes un peu partout. ERT en Grèce a purement et simplement mis la clé sous la porte en 2013. La BBC britannique connaît des coupes franches depuis des années. Idem chez les voisins belges et même suisses. C'est pourquoi nos amis de Radio-Canada au Québec nous ont envoyé ce message, comme quoi c'est souvent en allant voir ailleurs qu'on comprend mieux ce qui se passe chez nous.
Oui, bonjour. Alors, je suis Isabelle Monpetit, présidente du syndicat des communications de Radio-Canada au Québec pour Radio-Canada. Et donc, nous avons suivi la lutte de Radio-France et nous vivons exactement le même genre de problème au Canada actuellement. Je lisais des articles, c'est exactement la même chose. C'est la réduction des services publics, c'est la réduction des ressources au détriment des informations dont les citoyens ont besoin. Notre diffuseur public, qui diffuse dans les deux langues officielles, donc le français et l'anglais, est menacé par le gouvernement conservateur actuel qui a fait des coupes budgétaires. Et on nous a dit que d'ici 2020, on licencierait entre 1000 et 1500 personnes. Mais en avril précédent, on avait déjà eu plus de 600 personnes qui avaient été licenciées partout au Canada. Et donc, c'est une hécatombe. Il y a des réductions de personnel dans les salles de nouvelles, dans les stations régionales, parce qu'on est un réseau qui couvre tout le Canada. Vous pouvez imaginer à quel point c'est un vaste territoire. Et donc, on supprime des émissions dans les régions, à la radio. C'est un discours économique marchand où on ne croit pas aux services publics. Et notre PDG se défend en disant « Oh, nous sommes dans une tendance mondiale, BBC fait la même chose, Radio France fait la même chose », comme si ça devait légitimer cette destruction. C'est pas parce que les autres pays font des conneries qu'il faut faire pareil.
Bon, bah, très bon courage, bonne continuation.
Et merci. Vous aussi, c'est pas parce que la grève est finie que le combat est terminé. Oh non. Alors, on va continuer de garder contact et de se soutenir mutuellement. Je pense que c'est important aussi.
Très bonne idée.
Merci.
Au revoir. Toute ressemblance avec la situation en France ne serait donc peut-être pas fortuite. Vous entendez les mobilisations pour Radio-Canada. Et là, le studio du 105 de Radio France en âgé de grève.
Notre lutte ne doit pas changer. Notre détermination doit rester entière.
Et moi, je voudrais simplement dire qu'on peut s'engueuler. On peut. C'est pas la fin du monde. Puisque nous sommes à la fin tous du même côté. C'est tout ce que j'avais à dire.
Celui qui combat peut perdre. Celui qui ne combat pas a déjà perdu.
C'est pas ici une bande d'excédés qui font la grève depuis tant de jours. Ce sont des gens qui réfléchissent. Ce sont des gens qui travaillent bien, déjà. Et qui, institutionnellement, sont finalement respectueux de ce que la République leur offre.
C'est la radio publique. C'est la radio pour tous les citoyens. Et la radio, avec son information, avec tout ce qu'elle diffuse comme connaissance et le plaisir qu'elle appelle aux auditeurs, c'est la civilisation. On y a tous droit. C'est le minimum.
Oui, on en a passé des heures au studio 105 en Assemblée Générale pendant les 28 jours de grève. Et on était nombreux de toutes les antennes et formations musicales de Radio France à l'appel de l'intersyndicale à venir suivre les négociations, mais aussi à débattre et à échanger sur le rôle et l'importance de la radio de service public. À partager nos inquiétudes, à se rencontrer et à créer des collectifs pour que la réflexion et la mobilisation perdurent au-delà de la grève. La SPARF a vu le jour, la Société des producteurs et associés de Radio France pour la défense d'une véritable radio de service public et qui a réalisé 2 émissions participatives pendant la grève, Vive la Radio 1 et 2. Le CPPRF, aussi collectif des réalisateurs précaires en CDD, alias les Inaudibles, la SATMO, Société Amicale des Techniciens et Metteurs en Ondes, et l'excellent Meilleur des Ondes, le collectif de salariés de Radio France, actifs, réactifs et inventifs, qui a documenté la grève au jour le jour sur les réseaux sociaux. Ça en fait de l'énergie et de la matière grise qui se mobilise pour l'avenir de Radio France. On devrait y arriver avec autant de bonne volonté. Alors il faut de l'argent aussi, c'est sûr, mais ça doit pouvoir se régler aussi avec un peu de bonne volonté politique cette fois. Et à ce sujet, on a eu la visite de Patrick Vivret lundi dernier au Studio 105 en Assemblée Générale.
Une radio pour apprendre des choses.
Vive la radio ! Vive la radio !
Je suis Patrick Vivret. Je participe à plusieurs réseaux de citoyens qui sont groupés dans une plateforme qu'on appelle les États généraux du pouvoir citoyen. Et à titre professionnel, j'ai été aussi conseiller maître à la Cour des comptes.
Alors Patrick Vivret, vous êtes venu à Radio France, vous vouliez rencontrer les grévistes pendant ce mouvement de grève. Vous êtes venu en Assemblée Générale et donc cette grève vous a interpellé sur le fait que si les services publics ont des difficultés aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une évasion fiscale qui ne permet pas à l'État de remplir ses missions de service public, c'est ça ?
Oui, il y a un problème majeur qu'il faut toujours poser. Quand on nous dit que les caisses sont vides, c'est que en réalité, il y a un détournement fiscal qui est absolument colossal, qui a été évalué par Michel Barnier, qui était commissaire européen, à 1000 milliards d'euros annuels pour l'Europe. Rien que pour la France, ça représente au moins 60 à 80 milliards d'euros. Donc on ne peut traiter les problèmes liés à la rareté de ressources que si on réouvre le débat sur la question de l'évasion fiscale. Parce que dans l'évasion fiscale, il y a 2 modalités. Il y a la modalité de la fraude directe et puis il y a la modalité de l'optimisation fiscale qui pour le moment est légale mais qui en réalité est totalement illégitime. Une grande entreprise multinationale comme Google, par exemple, puisqu'elle est au cœur de l'actualité, elle va payer à peine 3% d'impôts parce que elle va délocaliser officiellement son activité, son siège social dans un paradis fiscal. Donc tant qu'on n'attaque pas de front cette évasion fiscale, tous les autres problèmes se trouvent biaisés par cette situation. Donc, par exemple, comme auditeurs solidaires, et nous sommes nombreux dans les réseaux citoyens à être auditeurs solidaires, nous souhaitons lutter à la fois contre ce détournement massif de contributions publiques qu'est l'évasion fiscale, et en même temps participer à un large débat dans la République française sur l'affectation de la contribution publique. Et là, le rôle de radio de service public, mis à disposition de ces débats, de cette créativité, nous intéresse au premier chef. Par exemple, l'un des projets dont nous parlons dans les réseaux de citoyens, c'est de lancer à nouveau un grand mouvement sur l'abolition des privilèges. Nous sommes le pays de l'abolition des privilèges. On a aujourd'hui quantité de situations de privilèges abusifs. On peut avoir des petits privilèges, certes, mais on ne peut remettre en cause d'éventuels petits privilèges que si on remet en cause les grands. Si on continue à avoir tous les jours des retraites chapeau, des stock options, des clubs où la cotisation est à 100 SMIC, comment voulez-vous qu'on puisse dire par ailleurs tel statut, tel doublon doit être remis en cause. Donc lancer un grand mouvement public sur la question d'une nouvelle abolition des privilèges, avec ce que ça suppose d'enquêtes, de reportages, de débats contradictoires, ça pourrait être tout à fait un processus auquel les radios du service public pourraient concourir en ouvrant leur antenne.
Le groupe groupe Radio France compte trop cher à vous, mesdames, messieurs, aux contribuables français. Alors allez-y, contribuables français, votez rmc.fr et par SMS au 61071.
On est à EDF dans les années 50, mesdames, messieurs, à Radio France. Voilà, c'est sympa, c'est vintage. On se croirait dans les 50s, dans les 30 glorieuses. Radio France coûte trop cher. C'est le conservatisme insupportable, inacceptable, de syndicats probablement, ou alors d'une direction qui n'a jamais voulu réformer ses pratiques. On se croirait dans les 50s. Is an urban Vietnam giving deadly exhibitions of murder by napalm. This is a radio crash on pirates out of life. This is radio crash. Everybody hold on tight. Come back to earth now.
Comme un bruit qui court.
Toute la vie, on a vécu avec les Arabes en Algérie. Et s'il n'y avait pas eu les communistes qui ont mis le feu aux poudres, on serait encore avec eux.
Puisqu'ils voulaient absolument que l'Algérie soit algérienne, eh bien, qu'il reste en Algérie.
Et nous partons en reportage en France, la vraie, la coloniale, avec Charlotte Perry qui nous emmène à Béziers où le maire, Robert Ménard, met du cœur à l'outrage. En bon réac born again, il remet à l'honneur de vieux démons de la guerre et après-guerre d'Algérie qui pourrissent toujours l'atmosphère.
En France, c'est l'une des premières mesures du nouveau maire de Béziers, Robert Ménard, soutenu par le Front National. Il décrète un couvre-feu pour les jeunes mineurs, les moins de 13 ans.
Moi, je n'aimerais pas que mes enfants soient dans la rue tout seuls parce que j'aurais peur pour eux. Et d'autre part, c'est vrai que quand ils sont en bande, ils peuvent faire peur aux gens.
Désormais, la police municipale a un nouvel ami. Une façon d'annoncer que les policiers de la ville sont maintenant armés.
Cette affiche, elle est rassurante. Or, c'est vrai qu'elle doit être anxiogène pour un certain nombre de petits voyous et de délinquants, mais je vous avoue que ça me fait ni chaud ni froid.
On en vient à cette ambiance tendue cet après-midi à Béziers lors du changement de nom de la rue du 19 mars 1962. C'était une promesse de campagne du maire frontiste Robert Ménard.
Nous tapions sur des casseroles en scandant Algérie française.
Il faudrait aujourd'hui, avec la même ardeur, avec la même détermination, dire non à cette France métissée qu'on nous promet.
Exit, la date qui commémore la fin de la guerre d'Algérie, hommage à un commandant qui a participé au putsch des généraux en 1961 et donc un partisan de l'Algérie française.
C'était le 14 mars dernier. Ils étaient près de 2000 à s'être rassemblés dans le quartier périphérique de la Devèze, à Béziers, pour assister à l'inauguration de la rue du commandant Élie Denoy de Saint-Marc. Des nostalgiques de l'Algérie française, pour qui le 19 mars 1962, date de la signature des accords d'Évian, est une trahison. Car d'une Algérie algérienne, ils ne voulaient pas. Et 53 ans plus tard, dans la tête de ces ultras, la guerre n'est pas finie. C'est le même combat qui continue, contre le même ennemi. Et Robert Ménard est de cela. Depuis un an, le maire de Béziers, élu avec le soutien du Front National, multiplie les arrêtés municipaux aux allures de coups de com'. Couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, policiers municipaux armés, Ménard joue sur les peurs pour stigmatiser les uns et fédérer les autres. Les autres, un agrégat de sympathisants d'extrême droite, unis autour de la même idée d'une France éternelle, menacée par le métissage et l'immigration. Et la crèche de Noël dans le hall de la mairie, ou la messe en ouverture de la feria, sont là pour rappeler aux Biterrois qu'à Béziers, la religion catholique prime. Sur l'islam, bien sûr. Voyage donc à Béziers, dans ce laboratoire d'extrême droite, où la guerre d'Algérie n'est toujours pas finie.
L'Algérie, disait et dit toujours ma mère, c'est notre paradis à nous.
Bravo. 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 Bravo.
partisan de l'Algérie française d'un côté, opposant de l'autre. Béziers était divisé. Le nom d'Élie Denoy de Saint-Marc reste associé à la torture en Algérie.
Pour la sortie, veuillez emprunter les passages souterrains, s'il vous plaît.
Bonjour.
Ah, bonjour.
Bonjour. Jean-Philippe Ouldaoudia, président de l'association Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons, qui a pour but de rendre hommage à la mémoire de 6 fonctionnaires de l'éducation nationale qui ont été assassinés collectivement par l'OAS sur leur lieu de travail, 15 jours avant le cessez-le-feu du 19 mars, qui pour nous est une date de paix et que l'actuel maire de Béziers veut supprimer au bénéfice du nom d'un putschiste qui, lui, voulait renverser la République par la force des armes. Mon père était l'un des 6 inspecteurs des centres sociaux assassinés sur son lieu de travail avec les 5 autres fonctionnaires de l'éducation nationale. Et vous avez à côté de moi Jacques Crosse.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Moi je suis un ancien d'Algérie.
Vous êtes un ancien appelé de la guerre d'Algérie.
C'est ça. Et puis je suis très engagé sur ces questions-là, sur Béziers en particulier. J'étais enseignant, j'ai exercé à Béziers pendant plusieurs années. Mais je suis à la retraite depuis 15 ans.
On est tout un petit groupe à la gare de Béziers.
Et on est prêt à commencer la manifestation à la gare de Béziers avec vous, si vous le voulez.
Bon alors, bonjour.
Torturer.
C'est l'une des premières mesures du nouveau maire de Béziers, Robert Ménard.
Traître.
Robert Ménard.
Bourreux. Haine. Écorché. Ébouillante. D'immigration. De peuplement. D'immigration de remplacement.
Alors là, on a quitté la gare de Béziers et on se dirige vers où?
On est dans une zone vers l'est de la ville.
C'est le quartier de la Devesse.
Voilà, c'est ça. C'est une ZUP qui a été créée au moment du retour des rapatriés d'Algérie. Je suis parti en avril 62. J'étais dans le sud oranais. Et quand je suis parti, on avait rendu nos armes là au cantonnement où on était. On devait embarquer au port d'Oran, mais Oran, la ville était à feu et à sang tenue par l'OAS. On n'a pas pu embarquer. On est allé embarquer à Mehdi Kebir, la base militaire. Quand on était à Mehdi Kebir, on ne risquait plus rien. Quand on était dans le district de transit, on entendait les rafales d'armes automatiques, les coups de, je ne sais pas si c'était des canons ou des mortiers ou ce que c'était. Hein. Et alors c'était marrant parce que...
De l'OAS.
Mais on les entendait en vrai, et puis on les entendait répercuter à la radio. Ce qu'on venait d'entendre, on l'avait à la radio dans les 3 minutes qui suivaient, ou 5 minutes qui suivaient. Il arrive, il suit.
Ici Radio France. Aujourd'hui, 9 octobre, l'organisation Armée Secrète a interrompu les émissions de la Radio Bolivie pour vous faire entendre la voix de l'Algérie française.
Il n'était pas encore 18h lorsqu'une très violente explosion a ébranlé le centre de la ville d'Oran. Immédiatement, le bruit a circulé qu'une cuve d'essence venait de sauter au port.
Mais Oran, c'était la ville que l'OAS voulait essayer de garder.
C'était qu'une ville, alors c'était des contradictions qui ont des résonances actuelles. C'était une ville qui avait élu un maire communiste pour la libération et qui a fourni le plus fort contingent d'OAS à l'Algérie. Enfin, c'était à feu à sang. Là.
C'est de là qu'est originaire le maire de Béziers, Robert Ménard.
Oui, mais son père a trafiqué dans l'OAS. Lui, il avait 12 ans, il ne pouvait pas en faire partie. Donc on va se mettre là.
Algérois, une armée des maquis s'organise. Ne rendez pas vos armes. Regroupez-vous. Tuez tous les traîtres, petits et grands.
Le tract est signé
OAS.
L'organisation armée secrète. La théorie de l'organisation clandestine est simple. Puisque le FLN est parvenu à se faire reconnaître par la terreur, l'OAS va employer le même moyen. Tout ce qui n'est pas Algérie française est ennemi. Boutiques algériennes, appartements ou magasins d'Européens libéraux sont les premiers visés. On oublie le FLN pour ne plus penser qu'à l'OAS qui multiplie les attentats. Le peuple est prêt à manifester son opposition à l'organisation secrète.
Soyez tous à l'écoute. Ayez confiance. Macron a fait 5 ans pour la France et l'Algérie française.
On va y aller à pied?
Oui, on se rend au point de ralliement qui se trouve avant la rue du 19 mars. C'est une petite rue, hein, c'est même une impasse. Elle avait été baptisée en 79.
Donc ça fait 36 ans qu'elle s'appelle rue du 19 mars 62.
On a eu l'idée de la débaptiser. Mais il a fallu que ce soit Ménard. Son nom avait été donné par la municipalité balmigère, la municipalité communiste. Il n'avait pas choisi d'ailleurs un axe central. Hein, c'était... Il y avait des pieds noirs dans le coin. Bon, c'était l'époque où c'était très cool. Ils avaient fini par s'intégrer. Mais dans la situation de crise qu'on vit, ça relance les rancœurs, les haines, le racisme, la xénophobie, l'homophobie, l'antisémitisme, tout ça, ça va ensemble. Pour eux, ça explique la crise. Ils évacuent l'essentiel.
Ici en particulier, Béziers, c'est une ville pauvre.
C'est la troisième ville pauvre de cette dimension en France. Chômage, précarité, violence aussi. Mais c'est pas de mettre, comme l'a sorti Ménard, des affiches avec un pistolet en disant à partir de maintenant, on va voir ce qu'on va avoir, qui va régler, hein. Ça ne règle rien du tout.
Vous êtes opposé à ce changement?
Bien sûr, parce que je suis contre le colonialisme, j'en ai souffert, et pour moi, le 19 mars 62, c'était engagé dans un processus d'indépendance et de paix. Et c'était ce qu'on aurait dû faire au début, au lieu de faire 7 ans de guerre, 7 ans et demi. Nier ce que ça a été, revenir sur cette histoire-là, c'est replonger dans le passé. Mais y compris que Ménard, il a des propos qui sont, on ne peut plus explicites. Il regrette la perte de l'Empire colonial. Il le dit comme ça, hein. C'est fou, c'est un truc qui est complètement anachronique.
C'est beau là, le paysage, on voit vraiment qu'on est dans le sud.
Vous êtes en plein dans le pays bitérois.
Il fait beau.
Non, c'est pas loin. Tu as crapahuté dans le bled, mais nous, non. Hein.
Là, on est toute une petite délégation derrière Jacques Cros.
C'est plein.
Là, il y a déjà des voitures garées un petit peu partout. Les gens sont réunis sur le rond-point avec des panneaux. Rue du 19 mars, cessez le feu. Il y a des drapeaux de solidaire aussi, l'UNPA, la CIMAD. Il y a la police aussi qui est là.
Alors, j'ai appris que la rue du 19 mars, qui allait être baptisée rue Commandant Élie de Noailles de Saint-Marc, était une impasse. Alors les nostalgiques de la colonisation sont dans un cul-de-sac de l'histoire et ils mettent Élie de Saint-Marc dans une impasse géographique. Je trouve ça très très symbolique et lourd de signification. Ce commandant putschiste qui a voulu renverser la République par les armes que celle-ci lui avait confiées, ben, il mérite que le nom d'une impasse.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a quand il fait chaud, hein, avant?
Ah, il y a du monde, hein. Enfin, c'est bien ma foi, écoute. Hein.
Il y a beaucoup de monde là de l'autre côté, hein.
Tout le monde.
Il y a des médailles partout, oui, avec des drapeaux. Oui, à la guerre, la non guerre. À la paix. Ouais, enfin, c'est non à la paix, c'est parti.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Je m'appelle Jean-François Gavoury. Je suis le président de l'Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l'OAS. Je suis le fils de quelqu'un qui a été assassiné au lendemain de ce putsch auquel a participé ce régiment, le premier REP, commandé par Élie de Noailles de Saint-Marc, auquel Ménard rend aujourd'hui hommage.
Donc votre père, c'était donc Roger Gavoury, qui était commissaire à Alger.
Exactement, mon père avait la charge de la sécurité publique à Alger et de la relation la plus harmonieuse possible entre les... la relation la plus harmonieuse possible, disais-je, entre, d'une part, les communautés pieds noirs, la communauté algérienne et certains militaires auxquels il a dû avoir à se confronter pour éviter justement des heurts entre communautés.
Trois lettres, un sigle, l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Elle naît du mariage du désespoir et de la haine. Le désespoir de voir la France abandonner ou perdre l'Algérie, la haine du général de Gaulle et surtout du FLN, qui est en passe de gagner politiquement la partie.
L'OAS réussit à entraîner la grande masse des Européens d'Algérie, charnellement accrochés à leur terre natale.
L'OAS, l'organisation de l'armée secrète.
Là, pour l'instant, vous vous trouvez, selon moi, du bon côté, c'est-à-dire des républicains. Si vous parveniez à franchir le barrage qui se trouve un petit peu plus loin, vous verriez d'autres représentants d'une autre France, celle qui est censée représenter la grande France.
Alors on va s'avancer un peu.
Assassé !
Essayez de se rendre de l'autre côté, pardon.
D'accord.
On va quitter le contre-rassemblement. On fait le tour, parce que tout est bloqué, il y a un barrage de police.
Comptez pas, hein.
Ouais. Pour rejoindre le rassemblement en soutien à l'initiative de Romère Ménard, qui débaptise aujourd'hui la rue du 19 mars 1962, donc le jour des accords d'Évian, pour la rebaptiser du nom du commandant Élie Denoy de Saint-Marc.
S'il vous plaît.
Bonjour.
Bonjour.
Vous voulez accéder au rassemblement ?
Oui, allez-y. Allô ?
Il y a plein de cars qui arrivent. Bonjour, je suis de la presse.
Vous êtes quoi ?
France Inter.
France Inter.
Il y a vraiment, vraiment beaucoup de policiers. Devant nous, il y a des monsieur avec le béret vert, des parachutistes. Une foule, peut-être deux ou trois fois plus de personnes qu'au contre-rassemblement.
Allez, béret vert et béret rouge, par ici.
Vous appelez les bérets verts et les bérets rouges ?
J'appelle les bérets verts et rouges. Les bérets verts des parachutistes de la Légion étrangère et bérets rouges parachutistes de la régulière.
Vous avez le béret rouge ?
Oui.
Là, on rentre dans la foule. Il y a du monde, hein ?
Il y a du monde. À notre gré, pas suffisamment.
Ouais.
Voilà. C'est un événement qui est tout à fait particulier et spécial en France. C'est la première fois que ça se passe en France, finalement. Et on peut dire merci à M. Ménard, qui a eu le courage de le faire. Moi, je m'appelle Régis Guillem. Alors, je fais partie de la DIMAD et je suis ancien légionnaire. La DIMAD, c'est une association qui regroupe les anciens détenus de l'Algérie française. J'ai été détenu pour ma participation à l'organisation armée secrète.
Ouais.
Voilà. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, ça fait vibrer de voir l'unisson, l'union.
Bien d'être spécialement de Nice.
C'est loin,
mais
c'est
combien de... Il y en a
qui viennent de Toulouse, Lyon.
Pour inaugurer une toute petite rue,
c'est
maintenant.
C'est une petite rue, madame.
C'est petite, vous l'avez
important
vu.
Ce qu'on demande, c'est que toutes les villes fassent pareil.
Le 19 mars, c'est une date très importante. Soi-disant que c'était le cessez-le-feu, mais il y a eu 1500 pieds noirs qui ont été tués. Après le 19 mars, dans les départements hors l'Oranie. Et en Oranie, il y en a eu 5000 d'assassinés, avec les militaires qui sont restés sur ordre de Gaulle avec l'arme au pied. C'était le plus grand criminel de guerre qui a existé, de Gaulle. À 14 ans déjà, je faisais de la résistance contre le régime de Gaulle. Et je n'admets pas ce qu'a autorisé Marine Le Pen d'envoyer Philippot déposer une gerbe sur la tombe de Gaulle. C'est une grande trahison de Marine Le Pen et de ses sbires. Et nous avons en comité, beaucoup de l'OAS ne votent plus le Front National tant que Philippot ne fera pas des excuses publiques par voie de télévision et écrites.
Il y a Monsieur Ménard qui arrive. Vous bouchez la rue à Monsieur Ménard, là. Ouh là là, attendez, il y a des personnes.
Bravo, 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 bravo.
C'est qui la dame ?
Bravo, c'était Madame Saint-Marc. Après, c'était sa fille.
Alors là, ils passent sous la banderole, là, qui sépare les porte-drapeaux, et ils se rendent en procession jusqu'à la tribune.
D'accord, ben on va les suivre, on va essayer.
Je passe devant les porte-drapeaux, devant les drapeaux, n'oublie jamais l'Algérie.
Le soleil brûlant de l'Algérie,
Vous êtes venu acclamer Monsieur Ménard ? Vous êtes vraiment au premier rang ?
Nous sommes arrivés, il était 1h15.
Ah oui, ça commence à 2h30.
On voulait être au premier rang, mais en fait, là, on est un peu envahi maintenant.
Parce qu'il y a les élus, il y a la presse.
Hourra, hourra, mon brave régiment, le canon des hommes, le fer est bon sol. Hourra, hourra, soit le front en avant, hourra. En avant, la vie, les chacals sont par ici, les chacals, ces vaillants guerriers, ils ne laissent pas les colons du pied, 50 sous à faire de souliers, approchez, les pleins des quartiers, vous y trouverez aussi des souliers.
Partie de l'Union nationale des parachutistes, mais la section héros.
Ah,
voilà, dont le président est quelque part par là.
Oula, qu'est-ce qui se passe ?
Oh putain, ils mettent le drapeau FLN.
Ah, il y a des gens là qui habitent dans la rue, ils mettent le drapeau FLN. Voilà. C'est les gens qui habitent là dans la maison qui doivent être d'origine algérienne.
Oui, et en même temps, attention, tout le monde doit vivre, tout le monde. Mais puisqu'ils voulaient absolument que l'Algérie soit algérienne, eh bien, qu'ils restent en Algérie. Et je ne suis pas pour qu'ils ne viennent pas, je ne suis pas du tout... Mais bon, mais qu'est-ce qu'ils font là, alors ? Voilà, ils sont en France, hein, donc je ne vois pas pourquoi ils mettraient le drapeau de l'Algérie devant le drapeau français aujourd'hui. C'est ça.
C'est des gens qui ont mis le drapeau algérien.
On n'est pas en Algérie si on est en France. Hein. Je suis désolée. S'ils ne sont pas contents, ils ont qu'à retourner là-haut.
C'est de la provocation. Provocation pure et simple.
Madame Blandine de Belletombe, fille du commandant Benoît de Saint-Marc.
Vous êtes venu aussi aujourd'hui.
Malgré tout.
Oui, bien sûr. La Ligue du Midi est là. On est bien représentés là. On est une quarantaine de membres là. Vous avez le reste des troupes là qui est derrière, au pied du drapeau occitan. De notre banderole. Les égorgeurs étaient FLN, aujourd'hui c'est estampillé de Daesh. Aujourd'hui il y a une continuité évidente dans cette lutte pour la défense de notre identité et de notre pays.
Il y a une continuité entre FLN autrefois, Daesh aujourd'hui, les attentats de Charlie Hebdo.
C'est les fils des égorgeurs du FLN qui sont aujourd'hui les égorgeurs de Daesh, quoi, des islamistes. C'est le même grand combat. Quoi. Nous, ce qu'on leur propose avec la Ligue du Midi, c'est de retourner chez eux. Il faut organiser la remigration. Parce qu'on ne peut pas faire vivre chez nous et supporter chez nous des populations qui nous crachent à la gueule en permanence et qui nous brandissent dès qu'on brandit un drapeau français, un drapeau tricolore, qui brandissent leur drapeau algérien, ils sifflent la chemin à la Marseillaise. Donc ces gens-là ne sont plus les bienvenus chez nous. Et je crois qu'il faut, avoir la décence et l'honnêteté de le leur dire pour que ça se passe dans le calme et la bonne humeur.
Voilà.
Derrière, on a des collabos là, qui sont là pour la destruction de l'identité du peuple français, du peuple européen, et qui veulent à tout prix l'installation d'une autre identité de remplacement. Ils ont l'air assez excités, donc on se met en tampon. Nous, on sera toujours là pour défendre les nôtres. On n'est pas des beatniks, donc évidemment, si on nous cherche, on nous trouve, on sera là.
Quoi. Le peuple aura tapon.
Bonjour. Vous êtes de l'autre côté des barrières. Je vous entends pas. Il y a une dame qui monte sur la barrière pour me parler. Alors, attendez, je vous passe le micro.
Transmettez notre colère. Ménard est un fasciste, un antidémocrate,
un colonialiste.
Le bonhomme dont il veut inaugurer la rue. Il a été condamné, même s'il a été amnistié.
Il divise en permanence, il divise le peuple.
L'OAS, j'avais 18 ans à Paris. L'OAS a tué des gens dans Paris et partout en Algérie.
Votre prénom ?
Catherine.
Le temps des colonies, il est fini. Le temps des colonies, il est fini.
De ce côté-ci aussi, il y a une foule très très compacte, avec beaucoup plus de jeunes, il faut dire. Les antifascistes qui sont venus, des drapeaux algériens qui sont brandis. Qu'il a fait son discours déjà, monsieur Ménard ?
Ben non, justement, non. On pense le voir arriver, il va arriver là. Alors le voilà.
Discours de M. Robert Ménard, maire de Béziers.
Merci. Cher. Chers, très chers amis, il y a des moments où il faut dire non. Non aux mensonges, à l'histoire trafiquée, réécrite, bafouée.
Il y a des gens qui crient fort de l'autre côté.
Il y a la merde.
Pardon ?
Il y a des moments où trop c'est trop. Oser dire que la guerre d'Algérie s'est terminée le 19 mars, le jour de la signature des accords d'Évian. Le laisser penser, c'est une ignominie. Je le dis à l'adresse de ceux qui s'agitent là-bas, pleins d'une haine titubante. Le communisme est mort et ses derniers militants sont des spectres errants dans le dédale de leur rancœur et de leur ignorance. Ils ont voulu, hier, l'Algérie algérienne. Ils ne veulent pas aujourd'hui de la France française. Nous sommes ici pour dire tout cela à ceux qui, armés, le bras des assassins, des bourreaux, des Français d'Algérie, des assassins qui nourrissent encore aujourd'hui une haine à l'égard de la France, de ses valeurs, de sa civilisation. Une haine qui pousse certains à abattre des journalistes, à abattre des policiers, à abattre des juifs. Que s'est-il donc passé pour qu'aujourd'hui, dans notre pays, on occulte à ce point la réalité de notre histoire ?
Voilà, vous l'entendez dans le discours de Robert Ménard, comme juste avant d'ailleurs, dans les propos des identitaires de la Ligue du Midi, le combat continue. Des égorgeurs du FLN autrefois, aux terroristes djihadistes aujourd'hui, c'est le même ennemi. Bougnoul, Raton, Racaille, Melon, les racines de l'islamophobie sont à chercher là, au fond de cette rancœur colonialiste, exacerbée par la perte de l'Algérie française. Une haine entretenue dans les mémoires et dans les cœurs de ceux qui voyaient dans l'empire colonial la grandeur de la France, et qui aujourd'hui perçoivent la société multiculturelle comme une menace, refusant d'accepter la réalité d'une France métissée.
Il faut parler aujourd'hui en France d'immigration de remplacement. Un chassé-croisé dont l'histoire a le tragique secret et dont je redoute que nous ne cessions de mesurer les funestes, les dramatiques conséquences. Je voudrais me tromper, je vous le jure. Je crains d'avoir raison.
Vous appelez comment ?
Patrick, voilà.
C'est le début de la reconquête ici.
Eh ben peut-être, la reconquête française, purement française, peut-être.
Vous faisiez quoi dans la vie ?
Je ne sais pas si je dois vous appeler mon capitaine. Vous êtes le frère de Yannick ?
Oui, je suis quand même.
Alors, j'étais parti de la 2e compagnie du 33e RIM à Guadeloupe.
Ah !
L'adjutant Ménini était l'adjutant de compagnie.
Ben
Saouri,
oui.
Le sous-officier Sétain.
Mais c'est pas possible. Voilà des souvenirs.
Il y a Colonial qui retrouvait la Légion.
Et voilà, des souvenirs. Bon, merci.
Vous êtes colonel ?
Oui.
Vous auriez mais aimé voyez,
voyez, on a, oui, parce que c'est la France, c'est la grandeur de la France. Quand ils étaient français, les gens étaient heureux. Et ils n'avaient pas besoin de venir chez nous. Ils étaient heureux chez eux.
Vous faites des photos là, de la nouvelle plaque de la rue. Vous êtes de quelle association?
Non, on n'a pas d'association. J'attends que mon mari puisse se mettre devant.
Ah, vous faites la queue pour faire la photo?
Oui, là, oui. Parce que j'ai peur que cette plaque ne dure pas trop longtemps après son poteau.
Vous avez peur qu'elle soit arrachée?
Avec la manifestation qu'il y a eu là-bas de l'autre côté, j'ai bien peur. Enfin, bon, espérons que non, hein, mais bon. C'est pour ça, il faut prendre un souvenir maintenant. Je vais faire la photo.
Je vous en prie, c'est votre mari, là, ça y est, qui s'est mis sous la plaque.
Saint-Michel!
Libre le
Vous avez été des seigneurs! Bravo!
Ils sont âgés maintenant!
Oui, tout le monde est un peu âgé! Hein.
Ah oui, on a des cheveux blancs, c'est sûr! Mais enfin, tant qu'on sera vivant, on se battra pour notre Algérie française!
Vous étiez d'Algérie?
Je suis d'Oran! Et je me suis levée à 4h du matin!
Pour venir à l'inauguration de cette rue!
Tout à fait!
C'est Élie de Noix-Tramard!
C'est important pour nous! C'est d'un grand honneur que Robert Ménard ait pu faire cette action.
Robert Ménard, il avait les larmes aux yeux en commençant son discours.
Tout à fait. Mais enfin, disons que je l'admire et que Dieu le protège. Parce que je crains pour sa vie.
Vous pensez qu'il peut y avoir des islamistes?
Même pas les islamistes. D'autres musulmans, sans être islamistes. Ils ont une hargne envers nous.
Les musulmans en général?
Vous savez, on ne sait pas. Il y en a des bons et il y en a des moins bons. Et pour les reconnaître, c'est difficile.
Là, tout à l'heure, justement, on est toujours dans la rue du commandant Élie de Noix-Tramard. À la maison à l'angle, là, la dame, elle a sorti un drapeau
FLN.
Algérien.
Oui, moi j'appelle ça FLN. Hein, parce que quand on a eu l'indépendance, c'était des marées humaines avec des drapeaux verts et blancs. Vous ne me verrez jamais habillée en vert et blanc. Toute la vie, on a vécu avec les Arabes en Algérie. Et s'il n'y avait pas eu les communistes qui ont mis le feu aux poudres, on serait encore avec eux.
Vous pouvez juste...
700 km,
750. Vous devez y aller, là. Oui. Je peux juste avoir votre prénom?
Jeanne-Marie, tout le monde me connaît à Vielle-Saint-Giron. Bon, Bernard.
Allez, ciao, ciao. Allez.
Alors là, la manifestation est terminée. Tout le monde est parti. Tout est calme. Le grand chez tout à l'heure, ça fait bizarre. On va essayer d'aller voir cette dame qui a osé brandir un drapeau algérien à sa fenêtre, qui habite à l'angle de la rue, qui s'appelle maintenant la rue Élie de Noix de Saint-Marc. Alors, donc vous habitez vraiment la rue qui est au premier numéro de la rue qui était autrefois 19 mars.
Je me considère habitante de la rue du 19 mars 1962.
Qu'est-ce qu'elle veut dire cette date pour vous? Elle a une signification
ou... Je suis algérienne. Elle signifie la paix, elle signifie l'harmonie. Et venir ici parce qu'il a décidé d'avoir une vengeance de 53 ans en arrière, c'est inadmissible.
Vous vous appelez comment?
Nabila. J'avais l'impression de revoir la guerre d'Algérie aujourd'hui. C'est un truc de fou, quoi. Jamais j'aurais cru voir ça. Et j'avais tous les bérets rouges, les bérets verts. Algérie française, 53 ans après, on entend encore Algérie française. C'est choquant. C'est choquant. Mes enfants, ils comprennent rien. Et je me suis faite insulter, je me suis faite traiter de pourriture et je me suis faite huer. Mais je l'ai fait. J'espère qu'il n'y aura pas de répercussions à ce qui s'est passé aujourd'hui. Surtout qu'on travaille, mon mari et moi, et on a des enfants en bas âge. J'ai une maison et j'espère que je ne serai pas la cible de certaines personnes malveillantes, quoi. Je ne vous cache pas que je ne suis pas tranquille pour les jours à venir. Et je souhaite qu'une chose, c'est que les votes arrivent très vite pour qu'on puisse avoir un nouveau maire pacifiste qui puisse nous rapporter la paix à Béziers.
Le plus dur dans une guerre, c'est de la terminer.
que la paix soit une valeur entérinée. Les vieux ennemis nourrissent une rancœur pour l'éternité. Si l'Algérie s'enrhume, c'est que la France a éternué. Du martyr au harki, du colon jusqu'au natif, qui se bâtirent pour sa patrie et qui pour ses actifs. Du pied noir au maquisard, on est tous en mal d'histoire. Alger la blanche, Alger la noire. On ne voulait pas d'une séparation de crise, de ne pouvoir choisir qu'entre un cercueil ou une valise. Nous ne voulions pas non plus d'une Algérie française, ni d'une France qui noie ses indigènes dans le fleuve de la Seine. Tous les Français n'étaient pas hommes de la machine, praticiens de la mort, revanchards de l'Indochine. Nous souhaitions aux Algériens ce que nous voulions 10 ans plus tôt pour nous-mêmes, la libération d'une dignité humaine. Nous n'étions pas tous des gens moulins, mais loin d'être gens foutistes, proches de Jean-Paul Sartre et des gens jusqu'aux bouddhistes. Tantôt communistes, traîtres, car porteurs de valises, tantôt simples sympathisants de la cause indépendantiste. Je refuse qu'on m'associe aux généraux dégénérés. Mes grands-parents ne seront jamais responsables du mal généré, du mal à digérer. Que l'histoire en soit ingerbée, que des deux côtés de la Méditerranée tout soit exacerbé. Alger meurt, Alger vit, Alger dort, Alger crie, Alger peur, Alger prie, Alger pleure, Alger rit. Alger meurt, Alger vit, Alger dort, Alger crie, Alger peur, Alger rit, Alger pleure.
Alors là, je me trouve dans le centre de Béziers. J'ai quitté le quartier de la Devèze où était le rassemblement et le contre-rassemblement. Et je me rends au siège du Parti communiste pour rencontrer Aimé Couquet, qui est le chef de file historique du Parti communiste ici à Béziers et qui était l'un des organisateurs de la contre-manifestation. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Oui. On est resté un bon moment debout cet après-midi d'ailleurs. Actuellement, Béziers, nous considérons que c'est devenu un laboratoire de l'extrême droite. Il y a une expérience qui se fait à Béziers, puisque le Front National essaie maintenant avec Marine Le Pen de laver plus blanc, et alors que Ménard, lui, il va vraiment trancher dans le vif. Il rassemble d'ailleurs autour de lui les identitaires et tant d'autres de ce genre qui sont vraiment des extrémistes de droite durs, purs et durs, comme ils le disent. Et il fait cette expérience, et avec la population, il lance en permanence toutes ses idées pour voir jusqu'où il peut aller. Mais en gros, il s'appuie comme un Maurras, la pensée maurassienne, l'armée. Alors pour lui, c'est la police municipale. Il a augmenté le nombre de policiers municipaux, il a armé les policiers municipaux et le clergé, enfin le clergé, comme disait Maurras, mais là maintenant c'est l'église catholique. Lui, il veut que cette église-là soit la religion officielle de la ville de Béziers. En opposition d'ailleurs à l'islam. Et à partir de là, c'est toujours les positions xénophobes qu'il utilise en permanence dans notre ville pour stigmatiser une certaine population. Et là, par cette action, le but qu'il poursuivait, pour lui, est atteint. C'est de rassembler tous ces gens d'extrême droite en s'adossant sur les rancœurs colonialistes ou les rancœurs de la guerre d'Algérie. Mais ce que je remarque, c'est que nous, quand même, dans cette contre-manifestation, nous avons pu rassembler pas mal de monde et surtout des gens locaux. Ça veut dire que localement, les gens se sont mobilisés sur la base de dire « ça suffit cette histoire, arrêtons de ressortir la hache de la guerre ». Donc en fait, Ménard a réussi en faisant venir du monde de l'extérieur sa manifestation, mais je crois qu'il ne va pas réussir à dresser les populations entre elles. Et nous sommes là pour éviter que ça se passe.
Et malgré tout, la stratégie du maire de Béziers semble fonctionner, puisqu'aux dernières élections départementales, les 3 candidats soutenus par Ménard l'ont emporté. Alors pour mieux comprendre comment et pourquoi la mémoire de cette guerre continue de travailler la société française, je vous recommande l'ouvrage de l'historien Alain Ruscieux, Nostalgérie, l'interminable histoire de l'OAS, qui vient de sortir aux éditions La Découverte. Et merci à Jérôme Chélus qui a réalisé ce reportage.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur la page web de l'émission, sur le site de France Inter. Et vous pourrez nous y laisser des messages et des commentaires, ça nous fera plaisir. On se retrouve samedi prochain à 16h. Et juste après les infos, c'est Colin et Meduy pour Si les Mériques m'étaient comptés.